sur cette thématique, je vous propose de tendre le micro à Michel Bonadéo, à votre gauche, puisqu'il est dans la région où vous exercez, je crois, hein, et vous travaillez, vous avez créé une structure, où vous êtes, oui, vous en êtes l'initiateur, je me souviens plus exactement.
Oui, c'est ça.
Et donc, qui est monté autour des produits bio, d'une production. Une aventure, Claude, tu y es allé il y a 2 jours, tu m'as dit que tu étais très impressionné par ce que tu as trouvé, donc je crois que, en plus vous faites des fruits et légumes, donc j'aurais de bonnes raisons de vous rendre visite. Expliquez-nous un petit peu cette aventure.
Sika Bio Pays Landais, donc c'est, j'ai créé ça.
Rapprochez le micro qu'on vous entende bien.
On a créé, c'est une Sika, Société d'intérêt collectif agricole, donc c'est assimilé coopérative. Mais avec des notions d'indépendance un peu plus marquées. Et donc on a créé ça il y a 20 ans, on va fêter nos 20 ans avec des producteurs sur l'agriculture bio, puisque quand j'ai commencé dans ce secteur, il y avait très peu de producteurs, en 96-97.
Vous étiez pionnier à l'époque.
On était plutôt pionnier, bon, ça existait déjà, hein, l'agriculture bio dans les réseaux spécialisés, mais c'était à la marge, ça représentait 1% de l'alimentaire à peu près. Aujourd'hui, les produits biologiques alimentaires ont passé la barre des 10%. Donc on a connu un bel essor, et donc c'est passé par la conversion des producteurs, avec les aides de l'État et de l'Europe évidemment, les essais en culture, etc. On est passé par là, parce que j'étais au départ dans une asso de développement agricole.
Et on parlait de risque tout à l'heure, il y a eu de la prise de risque.
Techniquement, bien sûr, il y a toujours de la prise de risque dans les productions bio. Il faut l'intégrer dans les coûts, c'est tout. C'est la seule question qui importe, en fait, parce que ça peut être de l'ordre d'une culture de carottes détruites, une récolte de tomates mise à mal par le mildiou. Il peut y avoir des gros loupés. Donc on estime qu'il faut mettre une prime de risque sur le producteur pour couvrir, évidemment. Et donc on a peu à peu, on a travaillé sur les expériences de production dans un premier temps, donc sur les filières, les productions emblématiques des Landes, les asperges, les carottes, les kiwis. Donc c'est des produits qu'on a suivis très tôt en conversion bio, et on s'est aperçu que ça marche en bio. Ouais. Je peux vous rassurer, sans pesticides on peut produire, on peut alimenter la planète. Au moins aussi bien qu'on le fait aujourd'hui, en bio. Ça, on en est certain. C'est un choix. C'est un choix, et la grande question, c'est la rémunération du producteur. C'est ça, parce que si on met au bout la règle de quoi rémunérer, le producteur, il peut faire en bio, bien sûr, qu'il va y arriver. Il aura des échecs, voilà, c'est ça, il faut. Oui.
Au niveau des productions, vous êtes fruits, légumes, céréales, enfin, alors, quel est le panel de votre activité?
Pour l'historique, donc, on a constitué ça, seulement on est arrivé en 2000, on se retrouve avec les producteurs, ils me disent, Michel, très bien, maintenant on produit, on vend comment? Mais à l'époque, il n'y avait rien. Donc moi, j'avais des producteurs, 3 hectares de carottes, bon, ça fait 150 tonnes de carottes. L'autre, il avait mis 5 hectares de kiwis, ça faisait 200 tonnes de kiwis. Bon, on fait quoi? On va au marché avec ça? On ouvre une boutique? Non. Donc on s'est structuré en SICA pour aller chercher des marchés. Et donc on a attaqué tous les circuits, distribution spécialisée, les primeurs, la grande distribution, etc. pour distribuer nos produits et associer. Donc on a coopté comme ça des producteurs de melon, des producteurs d'ail, d'oignons, d'échalotes.
Toujours dans la région et pour l'amont et pour l'aval,
voilà, alors on est identifié Nouvelle-Aquitaine. Donc puisqu'on est soutenu par la région Aquitaine, conseil régional et les programmes européens. Et Occitanie, puisqu'on a nos producteurs Gers, Tarn et Garonne, en particulier sur les coteaux. Donc l'idée de Biopays Landais, c'était de dire, on a des savoir-faire traditionnels, dont beaucoup sont en perdition d'ailleurs, parce que l'ail dans le Gers, bientôt il va falloir chercher les producteurs d'ail dans le Gers ou les producteurs de fraises. Donc on a nos savoir-faire traditionnels, et alors là on a un gros atout territorial, c'est la richesse du sud-ouest. Alors sud-ouest, j'entends Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, c'est qu'on a des terroirs très diversifiés entre les sables de la Haute-Lande, les alluvions de l'Adour, les coteaux du Gers et la vallée de la Garonne. Donc on a des zones pédoclimatiques très différentes et des savoir-faire traditionnels. Donc pour nous en bio, l'enjeu c'était de les convertir au bio en fait. C'est-à-dire, grosso modo, obligation de moyens, zéro pesticide. Donc zéro pesticide de synthèse. Et attention avec les pesticides naturels type cuivre et compagnie, puisque l'enjeu pour le producteur bio, c'est d'enrichir son sol. Quand on parlait de préserver et transmettre le patrimoine, ce qui est très important pour les producteurs bio, c'est qu'au début, en conversion, ils ont une dépression de fertilité, mais qu'ensuite et progressivement, la fertilité des sols remonte. Et ils arrivent à des niveaux, à 10-15 ans après l'engagement, la conversion et l'arrêt donc des épandages de pesticides de synthèse, ils arrivent à un potentiel sol supérieur à ce qu'ils avaient initialement. Donc c'est ça qui est très encourageant aussi pour les producteurs, et ça, vous allez voir des producteurs bio qui ont 15-20 ans de pratique, ils vont tous vous le dire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne lâcheront pas l'agriculture bio, même si elle va connaître des difficultés commerciales, parce que comme toute filière qui se développe, il y a des hauts et des bas. Donc on a coopté comme ça les producteurs, voilà, aujourd'hui c'est une centaine de producteurs avec qui on fait des programmes. Les producteurs sont libres, donc on fait les programmes nous par rapport à ce qu'on est capable de leur vendre, et eux capables de produire, donc on essaie d'adapter gagnant-gagnant, vous voyez, pour réussir, pour nous, le concept c'est il faut produire et vendre. Si on produit qu'on ne vend pas, c'est pas bon, si on vend et qu'on n'a pas le produit, ça ne sert à rien. Donc il faut réussir les deux, et donc on mène comme ça chaque production au fur et à mesure, et ma foi, ça marche pas trop mal, quoi.
Et vous vendez un produit bio qui est connecté à une origine territoriale, ça fait partie, je dirais, de la force de l'allégation, ou bien on en a encore strictement à « j'ai le label AB, je suis reconnu par Ecocert et tout va bien ».
Alors on a eu une lutte sur la défense du produit français, je dirais, dans un premier temps, puisque beaucoup de produits bio étaient importés. Alors il y en a toujours, les bananes sont importées encore demain, je pensais, à moins qu'on réchauffe beaucoup le climat, mais... Donc on a aujourd'hui le produit français très bien identifié, même les marques distributeurs, si vous regardez souvent l'étiquetage des MDD bio, il y a la région de production, produit français. Le MDD Carrefour, par exemple, il n'y a plus que du produit français. Il y a un resserrage de valorisation sur le produit français. Ben nous, déjà, on est à l'étape suivante. C'est identifier la région. Donc on a notre marque, c'est Biopays. On n'a pas landais, puisque les produits ne viennent pas forcément de toutes les landes. Donc on a Biopays, c'est notre marque commerciale en propre. Et le challenge pour nous maintenant en termes de valeur, puisque c'est la thématique, c'est d'aller plus loin sur l'aspect social. Parce que dans bio, il y a bio et bio. Et le marché grossissant, si vous voulez, le consommateur fait un effort d'acheter bio, pour lui c'est déjà un produit cher. Donc tant qu'à acheter bio, il va chercher...
Chez Carrefour, Mathieu Lovry, qui est le patron des fruits et légumes frais, me disait, au-delà de 30%, jusqu'à 30% de différence, on a une progression des ventes, au-delà de 30%, on plafonne. Oui.
Voilà, alors ça c'est le problème avec des idées comme ça, c'est que nous on travaille ça comme
ça. C'est pas une idée, pense que c'est un constat tout simplement.
C'est un constat marketing, mais nous on raisonne pas comme ça. Il y a un coût pour le producteur, et donc si la carotte est deux fois plus chère en bio, eh ben, il faut la vendre au prix où elle est. Et le 30%, je dirais, on s'en bat un peu.
Mais vous pouvez toucher une limite de marché, par
contre. Voilà, alors il y a des limites de marché, exactement. Alors c'est le problème de ces débats, c'est qu'on il faut arriver à les argumenter, si vous voulez, pour dire ne regardez pas.
Rapprochez le micro, voilà, merci.
Par rapport au conventionnel, il faut regarder ce que coûte le produit.
C'est bon. Ah oui.
Ah bon, c'est le meilleur ressenti. Donc sur cette question du prix, évidemment que c'est très important. Et alors on a vécu, si vous voulez, dans le cycle du bio, aujourd'hui 10%, donc tout le monde en veut, tout le monde veut le faire, tous les distributeurs en veulent. Toutes les industries, les IA, les industries agroalimentaires doivent avoir du bio dans leur panel produit. Et donc pour nous qui sommes initiateurs, ça nous crée beaucoup de concurrence. Et la concurrence aussi entre les distributeurs ne nous sert pas du tout. Parce qu'en fait, ça met la pression aussi sur leurs fournisseurs. C'est pas facile. Alors, c'est vrai que la question, en fait, pour nous, les dangers qu'on identifie au niveau de la filière par rapport à la défense des valeurs, c'est l'agriculture sans paysans. Donc, tout à l'heure, mon voisin parlait des paysans. C'est qu'aujourd'hui, il se développe un modèle de production agricole qui dépend des industries agroalimentaires. Donc c'est de la location de terre et de la production intégrée. Et donc aujourd'hui, ben, on le voit dans les tomates, on le voit dans les carottes, on le voit dans les principales filières agroalimentaires. Et pour nous, demain, c'est un véritable danger. Donc on a un modèle social à défendre du paysan qui doit rémunérer ses moyens, qui doit sortir une BE, qui doit transmettre et préserver son capital par rapport à des entreprises qui font de la location et qui développent des moyens de production intégrés. Du coup, des économies d'échelle, qui font aussi du bio ou pas du bio d'ailleurs, et qui, à mon sens, représentent un danger concurrentiel, puisqu'ils sont capables de fournir des très gros volumes à des prix relativement serrés.
Est-ce que ça ne vous engage pas, du coup, à vous projeter dans un discours RSE, dans une autre approche qui peut se rapprocher quelque part du discours tenu par un distributeur qui s'appelle Biocoop.
Voilà, mais pas seulement, mais c'est vrai que par rapport à ce débat de la question des valeurs, le produit intrinsèquement bio n'est pas suffisant, demain ne sera pas suffisant.
Au niveau même du cahier des charges bio lui-même, est-ce que ce dont vous témoignez sur le plan agronomique sous-tend quand même que vous faites un travail agronomique qui va au-delà, me semble-t-il, du cahier des charges, des bases du cahier des charges, non ? Parce que si vous travaillez le sol assez sauvagement et régulièrement, vous avez du mal à remonter votre capture de carbone, non ?
Oui, non, mais là, c'est des producteurs, disons, qui font leur parcours, hein, mais ils ont multiples conseillers, et c'est pas ce qui manque, je veux dire, ça foisonne d'idées en matière d'agroécologie, hein, de méthodes, entre les permacultures ou pas, le travail du sol ou pas, vous voyez, donc les méthodes de défense, élever les auxiliaires ou pas, enfin, voilà, les mélanges, les associations de plantes, les couverts végétaux, il y a énorme de travail. Mais là, je dis, ça foisonne déjà. Les producteurs sont déjà sur le fil, parce que pour eux, c'est un enjeu d'intrant. C'est-à-dire que demain, pour réussir aussi et pour développer son OBE, il faut nécessairement travailler sur le post-intrant. Donc là, aujourd'hui, le débat, c'est la valeur, mettre de la valeur sur le produit, mais il faut regarder aussi les charges. Et en bio, c'est aussi, ça peut être aussi une agriculture d'intrant. Donc il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Hein, et donc c'est vrai qu'au cœur de l'agroécologie, il y a beaucoup de choses à faire qui permet au producteur de conforter sa marge et de réduire ses risques aussi.
On n'a pas fait le tour. Hein.
Non, gros travail.
il y a encore du chemin. Effectivement, vous êtes face à cette problématique d'un marché qui progresse, d'une production qui progresse, pas nécessairement au même rythme, mais et effectivement des acteurs économiques très puissants qui peuvent très rapidement déstabiliser tout ça, quoi.
Ça.
Et là, effectivement, vous êtes un petit poussé dans tout ça, quand même.
Ah ben nous, on fait 20 millions d'euros, donc on est en minuscule. On fait 9000 tonnes aujourd'hui. Le secteur des IA, fruits et légumes, le leader, si on prend Blue Whale, par exemple, je ne sais pas, Blue Whale, peut-être tu sais le tonnage qu'ils font et le chiffre d'affaires.
300 000 tonnes.
Voilà, 300 000 tonnes. Donc, vous voyez l'écart. Nous, 9000 tonnes et 300 000 tonnes en pommes. Donc, on va avoir un concurrent pomme qui arrive.
Pomme, poire, kiwi,
présentable. Dans nos valeurs, qu'est-ce qu'on a ? Nous, en fait, on a l'ensemble de la gamme. Donc on a tous les produits, et ça, des opérateurs comme ça, ils n'ont pas cette diversité. On a la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on est capable de fournir des clients toute l'année avec des produits du sud-ouest. Donc on a des atouts énormes, je veux dire, on a une densité de producteurs, on a pas mal d'atouts, si vous voulez, évidemment, on est bien conscients.
Si j'ai bonne mémoire, quand on a préparé votre intervention, il me semble avoir compris que vous faisiez un travail de grossiste aussi, c'est-à-dire que vous assemblez des gammes relativement complètes pour vos clients.
Ah ben nous, c'est notre savoir-faire, c'est d'assembler nos producteurs déjà en priorité, bien sûr, et après aussi, ben, on est allé chercher, oui, des agrumes, on est allé voir nos collègues espagnols, puisque eux aussi, ça va faire de l'agriculture bio, enfin, ils sont dans la même problématique que l'agriculteur, qu'il soit en Espagne ou en France, grosso modo, les problématiques de sol, de valorisation, etc., ils ont les mêmes. Les structurations sont différentes chez eux, c'est du privé, beaucoup de privés, très autonomes, très réactifs. Donc c'est pour ça qu'on parlait de zéro résidu tout à l'heure, que les Espagnols étaient déjà sur les rangs. Et c'est vrai qu'eux, ils sont capables d'aller très vite, en fait, au niveau des décisions et des mises en place, parce que c'est du privé, c'est des gros privés. Et donc on a associé des fournisseurs en citron, en orange, en banane des Canaries, pour avoir justement des compléments, oui, des compléments de gamme, pour renforcer notre capacité, en fait, à savoir proposer un assortiment complet aux clients.
Ce qui veut dire que vous êtes capable, effectivement, de servir des détaillants, de servir de la restauration, et pas seulement d'expédier, voilà, des produits très ciblés, quoi. Ce qui veut dire que vous ne faites pas du tout le même travail que Louel, qui est très concentré sur une offre massive, sur 4 ou 5, 6 fruits.
L'idée, nous, de la filière, c'est de se placer au plus près du consommateur, quand même. Donc, si vous voulez, sur la filière, on va cumuler le travail de l'expéditeur et du grossiste. Alors bon, ça parle aux gens qui connaissent les fruits et légumes, peut-être moins aux autres. Hein. On a deux métiers cumulés, donc on achète direct au producteur, déjà puisqu'on est très proche de lui et qu'ils sont sociétaires chez nous, donc transparence avec nos producteurs. Et on va aller pousser le produit le plus loin possible à l'aval de la filière. Donc c'est ben, les magasins de détaillants, les primeurs de fruits et légumes, la grande distribution, la resto collective et privée, et on a une boutique en ligne, un drive, et voilà quoi.
Vous n'avez pas créé par contre vos propres magasins physiques ?
Par contre, on ne fait pas de magasins physiques parce que c'est trop coûteux par rapport à notre capacité.